Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passage à niveau, votre compagnie jusqu'à 14h, ce dimanche 15 février, et le menu, eh bien, on va continuer à parler des élections municipales en France, premier tour le 15, le deuxième le 22 mars, avec nous dans les studios, on a Monsieur Xavier Lemoine, maire de Montfermeil depuis 2002, et qui est un nouveau candidat. Et à 13h, on aura Nicolas Bougère, de Parti Socialiste, conseiller municipal d'opposition à Argenteuil, et tête de la liste Argenteuil Gauche Rassemblée. Et on va rediffuser une interview qu'on a réalisée avec le nouveau président de la République portugaise. Je vais parler d'António José Seguro, qui a été élu au deuxième tour le 8 février. Il s'agit d'un montage d'une interview réalisée dans ces mêmes studios le 2 novembre 2025. Et pour terminer, on livre Paris, capitale polyphonique, histoire de la presse, réfugiés, immigrés, édition Atlante. Ça, on va remonter même à la fin du 18e siècle. Bon, ça, c'est une autre affaire. Monsieur Xavier Lemoine, bonjour et merci d'être venu malgré les menaces de neige.
Pour l'instant, il fait clair.
Alors, je disais, vous êtes élu depuis 2002. Et justement, et alors, je me reporte à 2020. Bon, vous avez été élu dès le premier tour, finalement.
En 2020, comme les autres années, j'ai été élu, effectivement, au premier tour. Bon, voilà. Et je pense que la confiance que m'a témoignée jusqu'à maintenant la population de Montfermeil me permet d'envisager de poursuivre au regard des grands projets qui ont été lancés. Certains sont achevés et d'autres ont pris la suite et vont nous tenir en haleine sur un mandat et demi, puisque ce sont de très gros projets.
Alors, il faut dire que depuis 2020, les ressortissants des pays de l'Union européenne peuvent voter. Ceux qui ont la nationalité française peuvent être maires, adjoints, les autres sont délégués. Il faut le dire, et vous avez quelques élus d'origine portugaise dans votre équipe municipale, élus en 2020, je crois.
Depuis toujours, depuis 2002, j'ai toujours eu des élus d'origine portugaise ou portugais. Et aujourd'hui, ils ont acquis la nationalité française, et donc sont même adjoint au maire ou adjointe au maire. Un certain nombre, voilà. La communauté portugaise sur la ville de Montfermeil, historiquement, a été très très présente, très nombreuse et très engagée dans la vie économique, surtout de la ville, et puis également dans la vie associative par ailleurs.
Alors, ce mandat qui s'achève fut houleux et difficile, je vous cite là.
Il était compliqué parce qu'on commence avec le Covid, on commence avec un confinement, on poursuit ensuite avec la guerre en Ukraine, on a les questions sur l'énergie ou pour les collectivités locales, ça a joué en millions d'euros. Ensuite, on a eu la question des taux d'intérêt, de l'inflation, les événements de Gaza, la tragédie de Gaza qui a eu un retentissement extrêmement fort auprès de nos populations de culture ou de confession musulmane, mais pas que, parce que je pense que ce qui s'est passé ne mérite pas le silence. Très honnêtement, les aléas politiques, sociaux, économiques dans lesquels la France se trouve depuis les européennes n'incitent pas beaucoup à l'optimisme. Il n'y a qu'à, hélas, converser avec des chefs d'entreprise pour voir combien tout ceci est bien fragile. Donc autant, regarde mon expérience de maire, vous l'avez dit depuis 2002, il était possible d'avoir une vision moyen-long terme pour la ville dont on avait la responsabilité. Autant dans les conditions actuelles et avec tous les aléas que nous avons connus, ce qu'on avait prévu de faire sur ce dernier mandat a pu subir un certain nombre de révisions, de retards, de difficultés, et repartir pour une vision moyen-long terme, etc. Alors que, bon, voilà, donc c'était effectivement particulièrement stressant. Alors, avec une très grande force d'adaptation des services municipaux, des élus et de la population. Je prends un exemple tout simple. En plein Covid, l'hôpital de Montfermeil, plus de blouses portables pour les soignants, grande difficulté. J'ai la communauté turque qui vient me voir, qui me dit « Monsieur le maire, est-ce que vous nous autorisez à rouvrir nos ateliers et on vous fait 10 000 blouses en tissu ?» Je dis « Ok, mais après comment on les lave ?» Donc je vois mon directeur des services techniques, je lui dis « Écoute, dans le gymnase qui est juste à côté de l'hôpital, tu me construis une laverie industrielle, s'il te plaît. » 72 heures après, on avait la laverie industrielle avec des machines de 50 kilos, 60 bénévoles qui se relayaient toute la journée pour laver, sécher,
et
plier, remettre en conditionnement pour l'hôpital, et il y avait une noria, etc. Voilà, un exemple.
Non, un exemple, justement, vous parlez de problèmes de Covid, c'est un confinement. Après, la situation a été compliquée. Bon, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, oui. On a déjà trois gouvernements depuis.
Oui.
Alors, si je prends Monsieur Barnier, Monsieur Bayrou et même Monsieur Lecornu, déficit. Et apparemment, le déficit, c'est dû à cause de qui ? Des collectivités territoriales. Bon, vous savez très bien que les budgets ont été ponctionnés par l'État. Alors, concrètement, un résumé, s'il vous plaît, Monsieur Lemoine, comment établir un budget de fonctionnement ? Moi, je dis que c'est un casse-tête chinois.
C'est peut-être un casse-tête chinois. C'est l'occasion de réorganiser les services municipaux pour être beaucoup plus efficients. Et l'efficience passe par la polyvalence et par la transversalité entre les services. Et l'expérience montre, alors ça se fait pas tout seul, ça se fait pas sans difficulté, eh bien qu'on a des marges de progrès qui sont loin d'être négligeables. Et on n'a pas le droit de ne pas les utiliser. Maintenant, l'exercice a à un moment donné des limites. Voilà. Mais on tient absolument, enfin je crois que la dépense publique n'est pas un gros mot, et la petite musique qui nous est servie dans les médias concernant la dépense publique, s'il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école.
Non, mais finalement, ce sont des investissements, monsieur Lemoine.
Bien sûr, c'est une telle évidence, mais on est en fait dans une mentalité malthusienne qui voit tout par la diminution de la capacité à agir et non pas dans une dynamique de vie. J'ose ce mot-là, c'est pas un gros mot, notamment au moment de la discussion sur la loi sur l'euthanasie, mais une dynamique de vie, et la vie engendre la vie. Mais la privation engendre la privation. C'est vraiment psychologiquement extrêmement dur à supporter pour toutes les populations.
Alors, vous parliez de vie, on va parler des choses concrètes. Hein,
oui.
Parce que pour moi, la vie, c'est les enfants.
D'abord.
Donc, des crèches, des maternelles, oui. Sans oublier le problème d'école élémentaire, vous avez la responsabilité des locaux, etc., tout un tas de trucs, même si la photocopieuse tombe en panne. On va taper à la mairie,
oui.
Etc. Donc, qu'est-ce que ça a été fait ? Donc, vous avez présenté un bilan, alors rapidement, et en quelques points, les avancées depuis 6 ans.
Eh bien, écoutez, la ville de Montfermeil est l'une des villes en Seine-Saint-Denis, soit maintenant la 4e ou la 5e, qui a le taux de couverture en place de crèche le plus fort de Seine-Saint-Denis. On a 250 places de crèche pour moins de 30 000 habitants. Voilà. Et non seulement on a des crèches, mais je souhaite former tout particulièrement nos personnels de crèche.
Oui, parce qu'il faut trouver des personnels.
On en trouve, mais encore faut-il qu'on leur donne envie de venir. Et donc on les a
tous. Et un salaire correct.
Toutes formées à la méthode Montessori, qui est une méthode pédagogique intéressante, qui n'est pas exclusive des autres, et qui permet une meilleure prise en charge, je dirais, des enfants. Ensuite, à l'intérieur de ces crèches, On a resserré le lien parents et institutions pour vraiment être en appoint, en appui des parents dans l'éducation de leurs enfants. Et si à un moment donné il y a une difficulté, eh bien pouvoir leur apporter tout le réseau d'intervenants nécessaires. Et puis ensuite, après les crèches, les centres de loisirs. Là aussi, sur les centres de loisirs, on peut dire j'ai tant de places. Oui, d'accord. Est-ce qu'on a un turnover incessant d'animateurs qui font ça parce que ils font ça le temps qu'il faut? Ou est-ce qu'on les forme? Est-ce qu'on les stabilise? Est-ce qu'on les stagiérise? Est-ce qu'on leur permet d'avoir une carrière, de passer des brevets et d'avoir un contenu éducatif et pédagogique en direction des enfants supérieur, important? Est-ce que ils ont un relationnel et un lien de confiance avec les parents pour également être dans cette co-construction de l'éducation des enfants, les parents étant les premiers éducateurs de leurs enfants? Et quand, si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a une quinzaine d'années, le niveau scolaire de la ville de Montfermeil était dans le dernier tiers de la Seine-Saint-Denis, et quelques années après, on est monté dans le premier quart de la Seine-Saint-Denis. Mmh. Ça veut dire que toutes ces politiques-là, il y a l'aspect quantitatif, mais il y a l'aspect qualitatif qui ensuite permet à une population de faire de belles études, de se projeter dans l'avenir, et ça c'est le dynamisme, c'est la vie.
Donc ça veut dire que s'il y a des parents qui veulent s'installer à Montfermeil, ce n'est pas comme dans certaines villes, avant que l'enfant soit conçu, On l'inscrit déjà à la crèche. Enfin, c'est une autre affaire. Alors, à propos de social et pas seulement, il y a une question importante, c'est la question des services publics. Alors, rapidement, Monsieur Lemoine, la Poste, la CAF, la Sécurité sociale, le PMI, il y a des services qui ont disparu de Montfermeil où vous avez réussi à garder, bien que le maire n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus.
On les a gardés, d'abord parce qu'on a su très tôt, avec la ville de Clichy-sous-Bois, s'organiser sur une maison des services publics où on a rassemblé l'ensemble de ces administrations là, côte à côte, avec, je dirais, en mutualisant un certain nombre de moyens communs, ce qui leur permettait d'exercer en direction de la population qui en avait besoin, qui n'était pas forcément mobile, qui n'avait pas forcément l'outil numérique en possession. Et même ceux qui sont partis à un moment donné sous prétexte de rationaliser leur organisation, quelques années après, ils ont retoqué la porte en disant, après tout, finalement, être sur le terrain ensemble, où il y a un parcours administratif de l'administrer, parce que je dirais que la CAF, c'est jamais tout seul, ça va avec la CPM, ça peut aller avec les services de la préfecture pour le titre de séjour, l'identité, d'identité, ça peut aller avec celui de la mairie pour des actes d'état civil, ça peut aller avec l'aide sociale, voilà. Tout ça regroupé, ça marchait. Donc, sur la ville de Montfermeil, j'ai pas à déplorer le départ de ces administrations-là. Elles sont là, mais bien établies, bien identifiées, et il y a un travail assez remarquable qui se fait.
Alors, au point de vue santé, malheureusement, même Paris, apparemment, c'est une des zones sinistrées par rapport aux médecins traitants. À Montfermeil, il y a une maison de santé.
J'en ai plusieurs de maisons de santé. J'ai non seulement une maison de santé, mais il y a le plus gros hôpital de la Seine-Saint-Denis en médecine, chirurgie obstétrique, c'est l'hôpital de Montfermeil. 2300 salariés, c'est quand même énorme. Et donc, il y a eu un projet de reconstruction de cet hôpital qui a été plaidé auprès du ministère de la Santé, qui a été adopté fin 2025. Et je vois également arriver effectivement dans cette dynamique-là des maisons médicales, j'en ai déjà deux, et un certain nombre de médecins qui s'installent avec l'aide de la mairie, puisque nous avons un patrimoine foncier et un patrimoine immobilier non négligeable qui nous permet des souplesses et des facilités et d'être réactifs lorsqu'on nous fait des demandes. Pas plus tard que avant-hier, c'est 700 mètres carrés qui nous sont demandés par des kinés qui veulent s'installer, parce qu'ils savent que la dynamique sanitaire de la ville de Montfermeil, notamment grâce à la présence déjà et à la reconstruction de l'hôpital. Est attractif.
Et d'ailleurs, la reconstruction de l'hôpital fait partie des orientations pour le prochain mandat.
Ah oui, on va y venir. Gros dossier, oui.
Voilà, on va y venir.
Tout à fait.
Alors, parlons du centre-ville.
Oui.
Et le petit commerce. Alors, on sait très bien que malheureusement, les villes dites de banlieue ont été encerclés par des centres commerciaux qui ont complètement vidé le centre-ville, même parfois il n'y a plus d'habitants. Est-ce que vous avez réussi à sauvegarder le centre-ville de Montfermeil, et surtout c'est le petit commerce, quand je parle de petit commerce, c'est trouver un charcutier, c'est des commerces de bouche et pas seulement.
Alors pour être honnête avec vous, nous sommes au milieu du guet. Dans les années 90, on avait une rue et un centre-ville qui était florissant du point de vue du commerce. Et puis, les populations qui habitaient dans ce centre-ville sont parties en EHPAD ou sont mortes. Et c'est d'autres populations qui sont venues habiter parce que l'habitat était précaire, les baignoires sabots, les toilettes sur le palier, etc. Bon. Et donc, les choses ont évolué. Et à un moment donné, j'ai même dû, comme maire, demander aux propriétaires s'ils acceptaient que j'aille peindre des choses sur leur vitrine pour faire croire que c'était une vitrine active. C'était le désert. Bon. Donc là, on a eu un gros travail de réhabilitation du patrimoine bâti, tout ce qu'on appelle la résorption de l'habitat insalubre, tous les taudis qui existaient. Donc je vous passe le détail de toutes les opérations, mais on a été aidé par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, on a été aidé par l'Agence nationale du renouvellement urbain. Nous-mêmes, on a mis beaucoup d'argent pour acheter, réhabiliter, etc. Donc là, ça y est, il y a une nouvelle dynamique. Et là, depuis 2-3 ans, de nouveaux commerces s'installent, des enseignes nationales s'installent, des gens réinvestissent. Il y a encore quelques cellules encore de libres qui vont trouver preneur dans les mois, dans les semaines, même dans les mois qui viennent. Mais c'est un travail de longue haleine dont nous commençons véritablement à voir les fruits. Et je suis assez heureux. Mais c'est un travail de titan. Voilà. Et c'est une vraie préoccupation pour tous mes collègues maires. C'est pour ça que la région, la métropole avec les centres-villes vivants, et même l'État, mais surtout la métropole du Grand Paris, a mis des fonds extrêmement importants pour aider les collègues à rénover et revivifier leur centre-ville.
Oui, moi, je pense toujours à Rue du Commerce et à Paris. Bon, mais enfin, pour moi, c'est l'exemple. C'était l'exemple.
C'était.
Bon, c'était. Bon,
c'était.
Voilà. Bon, malheureusement, il y a plein de choses qui font partie du passé. Alors, vous avez parlé justement de ces logements-là. Alors, il y a un grand débat. Il y a la loi SRU,
oui.
Les 20% de logements sociaux, bon, c'est plus ou moins respecté, on paye des amendes, bon, il y a des problèmes réglés. Quelle est la situation au niveau de Montfermeil par rapport à ça? Parce que vous savez très bien, parce que d'une part, les logements coûtent très cher, on ne l'aurait pas trouvé. D'autre part, comment on fait pour garder les enfants des gens qui habitent déjà à Montfermeil? Bon, ils font leur vie, ils se marient, etc., ils voudraient rester là où ils sont nés. Bon, on dit logement et logement social à Montfermeil.
Bah, sur Montfermeil, d'abord, on a été confrontés, nous, non pas à la question du logement social dégradé, mais des copropriétés en faillite, sous administration judiciaire, avec des conditions de vie pour les populations épouvantables. Et ça, c'est Jean-Louis Borloo, avec justement l'Agence nationale du renouvellement urbain, qui nous a considérablement aidés pour démolir 1000 logements, reconstruire 1000 logements neufs par petite unité de 50, 60 maximum, et avec une architecture.
Et on a relogé les gens.
Et on a relogé. Et je peux vous dire que c'est même là où la ville de Montfermeil était l'une des villes les plus insécures de la Seine-Saint-Denis il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, est l'une des villes les plus sécures de la Seine-Saint-Denis. Ce sont les mêmes personnes. Et moi, j'ai une conviction, et je le dis souvent, tant qu'on n'a pas redonné dignité et fierté à toutes nos populations, par la qualité, et quand je dis la qualité, l'extrême qualité, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'espace public, il est vain d'espérer avoir des résultats en termes de sécurité, et il est vain d'espérer d'avoir des résultats en matière de politique éducative et culturelle. Et lorsque vous avez redonné cette dignité, cette fierté par la qualité, je le répète, de ces trois échelles complémentaires de l'urbanisme, de l'architecture et de l'espace public, eh bien là, les choses changent et évoluent. Et la résidence des Bosquets, qui a bénéficié de cela, est aujourd'hui encore une preuve à elle toute seule. Et beaucoup de personnes se disent, oui, il y a eu un beau boulot, très beau boulot de fait, et un boulot durable, etc. Et je le fais à l'échelle de la ville. Le centre-ville, j'en ai parlé tout à l'heure, vous m'avez interrogé. Eh bien, c'est la même exigence que nous avons, et on commence à en récupérer les fruits. Et dans le pavillonnaire, où on croit que le pavillonnaire était le lieu idéal par excellence, il y a beaucoup de fragilité dans le pavillonnaire. C'est la raison pour laquelle la ville de Montfermeil a, avec l'aide de l'État, inventé des politiques d'intervention en direction du pavillonnaire pour justement éviter les divisions pavillonnaires, l'exploitation des sous-sols, des garages et des combles pour des personnes primo-arrivantes prises dans la détresse, etc. Et donc là aussi, on commence à pouvoir juguler ce phénomène-là qui a énormément abîmé le tissu pavillonnaire de nos villes.
Voilà. Alors, monsieur Lemoine, au milieu de tout ça, bon, il y a le lien social entre les habitants. Bon, il y a un certain nombre de structures. Et je pense que quelque chose de très important, c'est le mouvement associatif. Et je pense que justement, ils font le lien, parce que eux, finalement, ils sont insérés dans la vie quotidienne des gens, ils sont dans les quartiers, différents quartiers, pardon. Et donc, je pense que pour vous, comme maire, c'est très important, parce que c'est un relais, en quelque sorte, et en même temps, ils servent de bec garde, pour parler français, de ce qui se passe dans la ville.
Bon, la vie associative est quelque chose d'extrêmement précieux, notamment sur les aspects culturels et sportifs, mais sanitaires. Enfin, je dirais, les champs d'intervention sont immenses. Mais n'oublions pas également la responsabilité qu'une commune, à travers ses centres de loisirs, ses crèches, toutes ces activités qu'elle mène, comment elle arrive à transformer, comment dirais-je, à saisir la moindre occasion de rassembler les gens de divers âges, de diverses origines, sur des événements fédérateurs, qui soient sportifs, culturels ou tout autre. Et ça, après le Covid, c'était l'instruction que j'ai donnée à tous les services municipaux. Multipliez-moi toutes les possibilités de rassembler des personnes, de mixer les publics. Alors, la fête de l'enfance, le son-lumière, le défilé culture et création. Je prends quelques manifestations qui brassent des centaines, voire des milliers de personnes. Mais y compris dans les crèches, des goûters avec les parents. Ça a l'air d'être minime, mais mine de rien, c'est là que les gens, plutôt que je dépose mon enfant, je reprends mon enfant. Oui, je dépose mon enfant, je reste un moment, je prends un café avec le personnel, je connais mieux le personnel. Mais à côté, il y a une autre maman et j'ai le temps de discuter avec cette maman-là, etc. Et ça, c'est la chose la plus précieuse. Et par les temps qui courent et au regard de la morosité économique et politique dans laquelle nous sommes, j'estime qu'un maire, la chose la plus précieuse qu'il ait à préserver et à consolider, c'est effectivement le lien social. Ça, c'est ma conviction.
Alors, être le citoyen de demain, être acteur de la vie locale. Et finalement, on pourrait dire que la composition de votre liste, vous allez la déposer à la préfecture.
Vendredi prochain.
Vendredi prochain. Bon. Donc là, je pense, c'est ça. C'est bon. Finalement, ça, cette petite tête de chapitre.
Absolument.
Résume pas mal de choses, parce que j'ai l'impression, bon, c'est peut-être uniquement une impression, c'est que, à vous, quand on vous parle de chiffres, qu'on vous parle de cet nombre de choses, etc., etc., c'est des numéros. Et au cours de la conversation, avant le début de l'interview, on a dit, ben, derrière les numéros, il y a des gens, bon sang.
Mais je veux dire, moi, mes réunions budgétaires avec les services, je leur demande pas les chiffres, je ne regarde pas les chiffres. Alors je les regarde après et je sais calculer.
Oui, quand même. Ouais.
Je sais quand même calculer. Mais la seule chose que je leur demande, quels sont les nouveaux enjeux, quels sont les nouveaux défis, quels sont les signaux faibles que vous détectez dans votre pratique professionnelle et quelles sont les politiques publiques qu'il faut plutôt créer, inventer pour pouvoir répondre à ces évolutions de notre société. Après les moyens, on les trouvera. Parce que dire « j'ai pas les moyens, je ne peux pas faire », c'est le plus sûr moyen que ça coûte 10 fois plus cher après. Alors que si on est à l'affût de tous les nouveaux enjeux et qu'on y met les moyens parce que c'est une nécessité et on les trouve, on se débrouille pour les trouver, mais on s'aperçoit qu'au bout du compte, on est largement gagnant par rapport à des gens qui disent « oh, c'est pas un problème, c'est d'autres qui vont le traiter, c'est pas grave, c'est pas notre mission ». Si, notre mission, c'est étant au plus près de la réalité sociale de nos populations, c'est d'y répondre le mieux possible.
Alors, vos propositions concrètes, il faut attendre encore une semaine ou deux, je ne sais pas, parce que l'élection, c'est dans un mois. Aujourd'hui, on est le 15 février,
ah,
il
oui.
paraît, comme vous dites, oui. Et le 15 mars sera le premier tour.
Absolument.
Alors, vous avez avancé quelques orientations. Alors, en résumé, il nous reste environ 2 minutes, M. Lemoine. Donc, bon, vous parlez de l'arrivée des fin 2027, la ligne 16, de l'ouverture des splendides ateliers Médicis, la reconstruction de notre hôpital, la reconversion du site historique. Bon, je vois que tout ça, ça fait des dépenses, monsieur le maire.
Et ça fait des dépenses, oui, mais une dépense, elle peut être aussi source d'investissement et de richesse et de dynamisme. Tout à l'heure, on a parlé des médecins qui arrivent. Eh bien, c'est une dynamique qui est créée. Je ne sais pas si ça coûte, mais je sais aussi ce que ça rapporte de pouvoir avoir une offre de santé correcte pour sa population. Sur le métro, en deux mots, ce métro va permettre de multiplier par 10 le nombre d'emplois accessibles en 45 minutes de temps. De 350 000 emplois aujourd'hui accessibles en 45 minutes de temps, on passe à 3,5 millions. Ça change tout en termes de formation, en termes d'emploi, en termes de lieux de culture, de loisirs, de divertissement, de consommation, etc. Et ça peut renforcer l'attractivité de notre ville, qui est en plus située idéalement à 15 km de Paris, 15 km de Roissy, 15 km de Marne-la-Vallée, enserrée par la forêt de Bondy et le croissant vert.
Donc,
de la région
Île-de-France. Donc, il ne faut pas utiliser la voiture.
Ah, mais la voiture, on prendra plus naturellement le métro après. Faisons venir les moyens lourds et on peut abandonner la voiture. Tant qu'il n'y a pas de moyens lourds, on garde la voiture, c'est normal parce qu'il faut continuer à vivre. Donc ça, c'est une orientation extrêmement importante, même en termes de développement économique pour notre ville. Et puis, les ateliers Médicis, moi, je crois la culture être la clé de voûte des 40 métiers qu'un maire exerce dans sa commune. Mmh. Et c'est vraiment la culture qui donne sens et pérennité à l'action publique. Et ces ateliers Médicis sont une très belle aventure, mais j'en reviendrai vous en parler à un autre moment, si vous le voulez, mais c'est une très belle aventure.
Et d'ailleurs, voilà. On voit ton bilan.
C'est quand même 6000 m² dédiés à la culture et à la pratique de toutes les cultures contemporaines. Voilà.
Dans votre bilan culture et patrimoine, 2 points préservés, c'est qui fait à la fierté Montfermeilloise. J'ai réussi à le dire. Monsieur Xavier Lemoine, je rappelle, vous êtes maire de Montfermeil. Alors, le 15 et 22 mars, l'élection, dans un mois, le premier tour. Alors, votez au municipal, finalement, c'est participer dans sa vie quotidienne, non ?
C'est participer à sa vie quotidienne et c'est surtout préserver les libertés locales. On se plaint d'être régenté par l'État de toute manière ou par l'Europe de mille et une manières. Eh bien, prenons-nous en main déjà sur le plan local et préservons nos libertés locales.
Bah, et apparemment, vous allez avoir un adversaire, c'est pas un ennemi, pardon, et une liste LR. Et ça n'empêche que vous avez été élu, je crois.
Non, pas moi. Il n'y a pas de liste LR.
Ah, il n'y en a pas.
Non. Enfin, je dirais, il n'y a pas de... De toute façon, je n'emploie pas les investitures, je n'emploie pas les logos politiques, c'est...
Non, mais bien, en 2020, vous avez quand même le lieu de soutien des Républicains.
J'ai le soutien des investitures, je n'ai pas fait mention. Je l'ai eu, mais je n'en fais pas mention. Donc, jamais j'en ai fait mention, et je n'ai jamais mis de logo, et je dis à mes colistiers qui éventuellement auraient une vie militante politique, vous faites ça dehors, le premier qui dit au nom de mon parti politique, je pense que, non, si je vous ai choisi, c'est vous, en tant que personne, par rapport à votre liberté, moi je suis pas là à la botte d'un parti politique ou d'un autre, et donc ils savent que c'est comme ça que je fonctionne.
Voilà, donc l'élection c'est la base d'un programme.
Absolument, c'est aussi simple que ça. Voilà.
Monsieur Xavier Lemoine, je vous remercie d'être
c'est moi qui vous remercie.
Venu, malgré les intempéries, et ici au studio de Radio Alpha. Merci.
Merci beaucoup.
Et maintenant, tout le monde sait, on devrait le savoir, que dimanche dernier, il y a eu le deuxième tour de l'élection présidentielle au Portugal, et c'est le socialiste António José Seguro qui a été élu au deuxième tour, comme j'ai dit, avec 66,83% des voix. Eh bien, on va écouter un montage d'une interview qu'on avait réalisée dans ces studios de Radio Alpha le 2 novembre 2025. Conosco aqui nos estúdios António José Seguro, candidato a Presidente da República, apoiado pelo PS. António José Seguro, antes de mais, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco.
Boa tarde, é um prazer, Artur Silva, em estar aqui e estar na Rádio Alfa. É a minha segunda vez na Rádio Alfa, em Paris mesmo, não pelo telefone. E estive aqui, estávamos há pouco a recordar, eu julgo que foi como governante que aqui estive numa visita que fiz. Então era responsável pela área da juventude quando... Era ministro do António Guterres.
Em já 11 aninhos, precisamente, eu vou fazer um pequeno retrato, é sucinto. Nasceu a 11 de março de 1962 em Penamacor, participou em vários governos socialistas, foi diversas vezes candidato à Assembleia da República, deputado no Parlamento Europeu e começou jovem a sua militância, foi no PS, foi secretário-geral da Juventude Socialista, para além de cargos a nível autárquico. O último PSOE que foi em Gouveia.
Exatamente.
Pode-me confirmar isso. Ora,
confirmadíssimo.
Apesar do apoio do PS à sua candidatura, diz que a sua candidatura é suprapartidária e recusa tricas políticas. O que é que isto significa, António José Seguro?
Significa que eu sou fiel à Constituição. E a Constituição diz que há uma eleição em que os partidos não concorrem. São as mulheres e os homens que se candidatam, desde que tenham nascido em Portugal e tenham mais de 35 anos. É o meu caso. Agora, sinto-me muito honrado que o Partido Socialista me apoie nesta candidatura. Porquê? Porque se reparar, ao longo de 50 anos de história, o Partido Socialista, quem é que apoiou? Mário Soares, Jorge Sampaio, foram dois excelentes Presidentes da República. E Manuel Alegre. Não, os que apoiou. Os que apoiou foram estes. E Manuel Alegre, e portanto, para mim, isso naturalmente é uma honra e uma alegria. E também uma responsabilidade.
Para si, o cargo de Presidente da República não é de comentador cotidiano, e deve pronunciar-se apenas sobre os decretos já constitucionalmente aprovados. Significa que, relativamente a esta questão e a maneira como põe os problemas, é uma crítica indireta ou direta a Marcelo Rebelo de Sousa, não?
Sim, acaba por ser uma crítica, mas o meu propósito não é fazer uma crítica. É uma consequência que decorre daí. O meu propósito é dizer aos portugueses o que é que eu vou fazer. Vamos a um exemplo concreto. Há uma lei polémica que começa a ser discutida na praça pública, depois vai para o Parlamento, depois é discutida na generalidade, depois na especialidade. Porquê é que o Presidente da República tem que se envolver numa luta que é entre os partidos? Não tem. O Presidente da República, na minha opinião, está acima dos partidos. É independente. Tem como objetivo o interesse nacional. Quando a lei chega a Belém, então é aí que o Presidente da República tem que se pronunciar. Concorda? Não concorda? Veta, promulga, envia para o Tribunal Constitucional caso encontre dúvidas sobre inconstitucionalidade. Portanto, há um tempo para o Parlamento, há um tempo para o Governo, há um tempo para os partidos e há um tempo para o Presidente da República. Isso gera o quê? Estabilidade. O nosso país precisa de estabilidade. Sem estabilidade não resolve os problemas das pessoas.
Há questões em Portugal que já foram postas, entre outras, se fosse a eleito Presidente da República. O Chega tem a maioria. Qual seria a sua resposta, respeitando a Constituição? É normal, a maioria no Parlamento, portanto, primeiro-ministro seria do Partido Chega.
Vamos lá ver, eu sou um democrata e sou leal à Constituição. Não há uma Constituição para uns e uma Constituição para outros. A Constituição é a nossa lei fundamental, é o chão que regula a nossa democracia. E, portanto, aquilo que compete um Presidente da República Democrática é respeitar a vontade do povo.
Sim, mas a partir do momento que a Constituição seja respeitada igualmente por quem dirige o governo, não? Portanto, aí o Presidente da República também tem um papel Arthur, de...
Bien sûr. Não é? Bien sûr. Ou seja, não há governos inconstitucionais em Portugal. Não há governos contra a Constituição. E o Presidente da República é o garante da Constituição. E eu serei firme na defesa dos valores democráticos. Que não haja dúvida sobre isso. Portanto, serei um Presidente ainda mais vigilante em relação às matérias que possam pôr, possam servir de ameaça à nossa democracia. Isso que fica muito claro.
A propósito de valores, estou a pensar agora nos valores do 25 de Abril, será que em Portugal hoje estão ameaçados ou podem estar ameaçados?
Sim, há uma ameaça. Ela vem de diferentes origens. Vêm ameaças quando as regras da democracia são violadas, ou por ações ou por palavras. Mas também estão ameaçados quando a democracia não responde aos problemas das pessoas. Ou seja, há sempre uma discussão a diferentes níveis. Vamos lá ver. Para algumas pessoas a democracia é só eleições e poder-se falar à vontade. Eu discordo. É isso, e já é importante, mas também tem que ser a resposta que os governos têm de dar aos problemas das pessoas. Para que as pessoas tenham melhores salários, para que as pessoas tenham melhores pensões, melhor acesso à saúde. Mas deixa-me só explicar este ponto. Portanto, as ameaças à democracia não são só oriundas de uma parte, são oriundas de várias. É óbvio que há hoje um crescente de verbalização e de atos que um democrata não pode aceitar e considera intolerantes.
Já iremos aos direitos, o direito à saúde, o direito à habitação, o direito à educação, já lá iremos. Hoje em Portugal fala-se muito de imigração. Lei da nacionalidade, lei de imigração, lei do retorno de estrangeiros, uma lei cujo nome eu chamo de lei da burca, mas não tem esse nome, mas enfim, alguns de diplomas já foram aprovados, outros estão ainda em debate na Assembleia da República. Ora, a pergunta que eu faço, quais são os problemas dos portugueses hoje? São os imigrantes ou é a saúde, a educação, a habitação, baixos salários, precarização, exemplo, aliás, da lei laboral que está no forno?
Claro. Mas está a ver, tudo aquilo que referiu são problemas. Nós temos é ter uma hierarquia. Qual é para mim o principal problema e que vai ser a primeira das minhas prioridades, que é encontrar a solução para esses problemas? É promover o acesso dos portugueses à saúde. Hoje, um português que vive em Portugal não tem a mesma situação dos portugueses que vivem em França ou que vivem na Suíça. Ou seja, um português, hoje ao fim de semana, tem que andar à procura se precisar de uma urgência. Qual é que é a urgência aberta? Isto é inaceitável. Espera semanas para ter uma consulta.
Espera meses.
Ou se não anos, para ter uma intervenção cirúrgica. Ora, isto é inaceitável. Aliás, muitos dos imigrantes que neste momento já estão reformados aqui em França, me conversaram comigo, dizendo, bem, nós queremos voltar para o nosso país, temos aqui algumas dúvidas sobre natureza fiscal, mas também temos um receio. É que depois não tenhamos um sistema de saúde como aqui em França. Ora, esta é a primeira prioridade, que é para os portugueses que vivem em Portugal, que é para os portugueses que querem regressar à sua terra natal.
Abro um parênteses aí, afirmou que salvar o Serviço Nacional de Saúde é a prioridade das prioridades.
É. Eu vou ter todos os anos do meu mandato, caso vença estas eleições, uma prioridade, uma causa. E a primeira é o de promover a saúde, o acesso à saúde por parte dos portugueses. Porque, Arthur, sabe uma coisa? É que pode faltar dinheiro para tudo, mas para a saúde não pode faltar. A saúde dos portugueses vem em primeiro lugar.
É um bem público, é um bem essencial. Mas falemos da questão da habitação. Os imigrantes são acusados à falta de alojamento e culpa são dos... Eu chamo de trabalhadores imigrantes. Então são imigrantes, não são claro. Trabalhadores imigrantes. Pois bem, o que é que o candidato a Presidente da República, António José Seguro, pensa da situação, precisamente, da habitação, até que ponto é que o dito alojamento local, a cidade de Lisboa, Porto, vai no mesmo caminho, os bairros populares estão vazios quando houve o Covid, não se via ninguém das ruas, até que ponto é que essa especulação imobiliária, quarteirões inteiros que foram transformados em hotéis de luxo, em condomínios e por aí fora, onde é que está a população, que já falámos, tem salários que são baixos? Não há que pôr termo um bocadinho essa questão para resolver em parte o problema da habitação?
Nós temos que promover o acesso dos portugueses à habitação. Esse deve ser o foco. Como é que vamos promover esse acesso? Dou-lhe um exemplo. Sabe quantas casas estão devolutas em Portugal em condições de ser colocadas no mercado de arrendamento?
Não.
Cerca de 200 mil. E estão disponíveis de um momento para o outro, porque essas já estão construídas. Então, porquê é que não há leis que incentivem o mercado de arrendamento de modo a que os portugueses que não têm um teto ou os jovens que queiram sair de casa dos seus pais o possam fazer? Nós somos o segundo país na União Europeia onde os jovens saem mais tarde de casa dos seus pais. E, portanto, estão a limitar o seu projeto de vida. Isto é algo inaceitável. Portanto, nós temos que encontrar várias medidas que todas concorram para o mesmo objetivo. Que as pessoas tenham uma casa de acordo com aquilo que é o seu rendimento.
Falamos há instantes da questão dos imigrantes e sabemos até os trabalhadores estrangeiros que estão lá de diversas nacionalidades, sem esquecer os do chamados PALOP igualmente, da comunidade lusófona portuguesa, da CPLP. A questão é o seguinte: Portugal tem 5 milhões de cidadãos que estão espalhados por esse mundo fora. Pois bem, mas eu volto um bocadinho aos debates atuais, hein? Eu gostaria que, como candidato à Presidência da República, desse o seu ponto de vista, não é? Mais 5 milhões de imigrantes. Não há família nenhuma portuguesa que não tenha alguém que esteja na imigração, ou que esteve na imigração, ou que vai partir para a imigração. Os imigrantes são os botes expiatórios de tudo o que vale mais no país. O exemplo de cartazes, por exemplo, contra os ciganos e contra os imigrantes, trabalhadores imigrantes, originários do Bangladesh, para além das leis que falamos. Eu acho que é uma questão que eu próprio gostava de ser do teu ponto de vista, da medida em que, penso eu, salvo eu da minha parte, novamente, do dia 15 de novembro vai organizar uma convenção pela democracia contra venenos de extremismos.
É verdade. Os extremismos são os venenos das democracias. Uhum. Porquê? Porque os extremismos não dialogam. E a democracia tem uma base de diálogo, compreendermos a posição de cada um. E por isso eu quero que esse espaço, essa convenção, seja um momento de encontro na pluralidade de todos aqueles que querem defender a democracia, mas uma democracia de confiança e também uma democracia de oportunidades. Mas quero ir ao ponto da questão da imigração. Esses cartazes que foram colocados são intoleráveis e devem merecer, como mereceram de mim, o maior repúdio e a maior indignação. Até porque se joga com factos que não são reais. Sabe qual é a percentagem de trabalhadores do Bangladesh que vivem em Portugal em relação à população portuguesa?
É ínfimo.
Estamos a falar de 0,002%. Desculpa, isto não tem nenhum sentido. Mas sabe o que é que eu respondi e o que é que mais me indignou, para além deste reparo que é xenófobo e racista? É que nós somos um país de emigrantes. E temos milhões de emigrantes que trabalham aqui em França, que vivem em França. E aquilo que eu disse foi o seguinte: imaginem o que é um emigrante, um português, a sair aqui em França de sua casa e trabalhar e ver um cartaz a dizer isto não é Portugal. Isto é inaceitável. Nós somos seres humanos. As pessoas que vieram, os portugueses que estão aqui a trabalhar em França, muitos deles, a maioria, não vieram de livre vontade, vieram por necessidade, porque não encontraram ou não encontram em Portugal as oportunidades que encontraram aqui. Isso enche-nos de orgulho perceber como evoluíram, como criaram riqueza, como criaram rendimento. Portanto, nós temos que construir sociedades em que as pessoas não sejam inimigos das próprias pessoas. Isso é fundamental. E esta é uma das minhas preocupações e as razões que me traz de volta ao fim de 11 anos à vida política no nosso país, que é o de unir os portugueses. O de unir os portugueses que estão em Portugal, os que estão fora de Portugal. Nós somos um só povo. Não somos um só território. Mas como eu disse, e volto a repetir, onde há um português, está Portugal.
O racismo é um delito de opinião ou um delito penal?
Vamos lá ver, o racismo é uma excrescência das sociedades que se pautam pela civilização. Os valores civilizacionais fazem-nos olhar para todos, independentemente da cor da pele, como seres humanos. Todos temos um coração. Todos temos cabeça, todos temos tronco.
Todos iguais, temos todos diferentes, todos iguais.
Claro.
Mas é um delito de opinião ou
não,
um delito penal?
Vamos lá ver.
É um delito penal?
Não, quer dizer, então as leis do nosso país são muito claras. E a Constituição é clara. O racismo é crime. A xenofobia é crime. E temos instituições que devem agir quando houver atitudes que são ilícitas.
Aliás, relativamente aos cartazes, já houve esse racismo e não só, que já interpelaram a Procuradoria-Geral da República. Falemos da imigração. Teve um encontro importante que foi no dia 9 de julho deste ano com membros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades. Afirmou: não há portugueses de segunda. Ora, a minha pergunta, não há portugueses de segunda? Bom, avançaram certo número de coisas que talvez existam portugueses de segunda. Para já, relativamente ao voto. Em Portugal, vota-se no bairro onde se nasce. Aqui, para votar nas legislativas e para o Conselho das Comunidades Portuguesas, não, para as legislativas é o voto por correspondência. Nas presidenciais e para o Conselho das Comunidades Portuguesas é o voto presencial. Ora, em França, o Consulado de Paris diz respeito praticamente a metade da França. A minha pergunta, até que ponto é que o voto eletrónico nunca se quis fazer uma experiência ou um voto piloto com a eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas, isto é um exemplo. O voto eletrónico pode ser uma pista, porque quem é que vai fazer 400 ou 500 quilómetros, e quando se fala nos Estados Unidos e países suíços ainda é muito mais, sem esquecer a África do Sul, onde o certo de coisas não funciona. Como é que é? O que é que não era necessário unificar para já os métodos de voto?
Vamos lá ver. A sua questão tem várias abordagens, mas que se resumem a uma só. Nós temos que facilitar a participação dos portugueses para poderem votar e não criar obstáculos. Esse, para mim, é um ponto crucial. E neste momento há demasiados obstáculos nesse sentido, como aliás acabou de referir. Portanto, o que é que eu defendo? Eu defendo que nós tenhamos cada vez mais um método de votação que, enfim, incentive as pessoas a votar e não faça o contrário. Qual é que é esse método? Bem, nós temos o da correspondência para as eleições legislativas, temos o presencial para a Presidência da República. Eu julgo que nós temos a ganhar em ter um único método, até para ser mais simples. Agora, como é que é esse método? Esse método é eletrónico, esse método é por via de correspondência, isso eu deixo à administração eleitoral para decidir. Mas tem que decidir, não é? Adiar,
é pública,
não é adiar o problema. Porquê? Qual é o ponto aqui? Como sabe, em Portugal as pessoas também se dirigem fisicamente, presencialmente, para votar. Mas andam 1 quilómetro no máximo, 2 quilómetros, para poder fazer esse voto. É completamente diferente do que é aqui. E não há ainda o voto eletrónico em Portugal. Tem havido uma discussão. Mas eu julgo que nós devíamos avançar no sentido de encontrar aqui soluções confiáveis. Confiáveis. Eu sei que há receios, que haja hackers, que haja manipulação, mas também já hoje há soluções informáticas e digitais que possam controlar bem e permitir que os portugueses não tenham que fazer 400 quilómetros ou 200 para ir votar. Mas há outra coisa. É também as filas para ir votar. Porque quando se é presencial e só há uma mesa de voto ou duas mesas de voto, também há muitas filas. E muitas vezes as pessoas dizem, bem, eu faço 400 quilómetros e depois tenho que estar 5 horas ou 4 horas nas filas. Portanto, há aqui coisas de natureza logística que podem e devem ser já resolvidas.
Outro direito. Direito à educação. É que em França, parece que ainda assume de que os que são privilegiados. Mas como vemos países como os Estados Unidos, o Canadá, a África do Sul e não só, podemos dizer que o ensino português foi, aos poucos e poucos, abandonado. Cada vez há menos professores no chamado EPE, o ensino português no estrangeiro. Esse ensino, 7 números de sítios, tem que se pagar propina, noutros não, e por aí afora, o ensino português no estrangeiro é o Camões, é como quem diz o Ministério dos Nossos Estrangeiros, que tem a tutela e não é o Ministério da Educação. Relativamente a estas questões, como é que um Presidente da República, bom, ele está limitado nos seus poderes e o que é que ele pode fazer, mas a língua portuguesa é fundamental e hoje, para além de ser uma língua materna, é um trunfo mesmo profissional.
É, e para mim vai ser uma prioridade. Porquê? Porque na definição daquilo que compete ao Presidente da República, uma delas é garantir a unidade nacional. Ora, a língua é um fator de unidade nacional. E é um fator de unidade nacional mesmo quando não está num território nacional. E, portanto, eu sei que há diversas situações, quer na escola primária, quer depois no secundário, as questões das secções. Estou muito bem atento a essas matérias e, portanto, o papel que existe aqui é muito simples. Se queremos promover a língua portuguesa e que mais cidadãos aprendam o português, temos que investir. Ter bons professores, bem remunerados e termos a possibilidade das pessoas acederem a essa língua. É claro que há determinadas comunidades que não têm sequer, por vezes, alunos para formar uma turma. Estamos a falar em alguns casos mais distantes. Mas aí temos também meios de telecomunicação à distância que, bem trabalhados, com recursos educativos que sejam apelativos, que sejam dinâmicos, nós podemos encontrar também formas complementares. Mas a principal é da presencial e de ter professores que ensinem com qualidade a nossa língua.
António Jesus, quando um país já não consegue assegurar direito está consagrado na Constituição sobre o ensino em Portugal, de maneira que no estrangeiro, não sei o que é que isso poderá dar.
Sim, mas aí isso é uma coisa muito simples. Um país com poucos recursos tem que ter prioridades. Agora, não podemos é ter tudo ser prioridade. E, portanto, diga uma coisa, a língua é ou não uma prioridade? Claro que é. A saúde é ou não uma prioridade? Claro que é. Há outras coisas que não serão prioridade. E, portanto, nós temos que atender a isso. Porquê? Porque durante muitos anos, e se calhar décadas, olhava-se para os portugueses que trabalhavam no estrangeiro como a saudade, isto vai lá com o coração, pomos aqui umas canções, cantamos o hino e fica tudo feliz. Bem, isso é importante da nossa cultura. Mas isto mudou muito ao longo destas décadas. E, portanto, hoje encontro jovens portugueses que dizem eu quero em Portugal uma economia mais competitiva. Eu encontro menos jovens que me dizem eu quero um Estado que não me atrapalhe. Eu quero um Estado que resolva os meus problemas, que funcione. Ou porque vou fazer um registro da casa, ou porque quero regressar para o meu país. Portanto, nós temos que perceber que onde está um português, está um ativo nacional que nós precisamos de conectar, de criar rede, porque isso se transforma num benefício para o país. Diga-me uma coisa. Quantos imigrantes, quantos portugueses o senhor conhece, que estão aqui em França, que vieram trabalhar como empregados e que hoje são grandes investidores e que faturam imenso e que fornecem bens, quer para o Estado francês, quer para a economia francesa? Quantos nós temos? Isso enche-nos de orgulho. Ora, essa gente fala a nossa língua. E, portanto, se nós conseguirmos conectar esta gente toda e, simultaneamente, continuar a falar e a divulgar o português, isso tem um impacto enorme na nossa economia. Portanto, olhar para o investimento na língua portuguesa como uma despesa é um mau caminho. Nós temos que olhar como um investimento.
E a propósito de investimento, aliás, obviamente, a primeira geração já lá vão duas, já lá vão mais, vão 51 anos depois do 25 de Abril. De maneira que aqueles que chegaram aqui nos anos 60 já têm netos, mesmo estou perto de ter bisnetos, mas enfim, é outra história. Precisamente nessa ligação a Portugal, há algo que é essencial, passa pelos consulados. Ora, a falta de funcionários é um problema enorme. Por vezes chega às listas de espera, é preciso esperar 3 meses, de maneira que, precisamente, essa ligação para si faz um todo. Realmente, a ligação entre Portugal e a diáspora.
Claro que faz. Quer dizer, é inconcebível que uma pessoa, para ir renovar um cartão de cidadão, tenha que estar uma série de meses à espera que seja marcada a ida e depois tenha que ficar mais outros meses à espera que lhe entreguem o cartão de cidadão. Desculpe lá. Nós vivemos no século XXI. Nós não estamos há 100 anos atrás, em que as coisas se faziam com a caneta e com o papel. Desculpe, isto é uma questão tecnológica. Não custa o dinheiro que as pessoas poderão pensar, mas facilita muito a vida das pessoas. Então, imagino um português que está aqui em França, que diz, olha, o meu cartão de cidadão vai expirar dentro de 3 meses. E depois só consegue que o Estado de português resolva o problema passado 6 meses. Então fica sem quê? Sem cartão de cidadão, sem identidade. Mas isto lembra alguém?
Aliás, há problemas enormes, porque há milhares e milhares de bebés que não têm nacionalidade. A inscrição é feita nos consulados, mas em Portugal a questão emperra.
Sim, mas há coisas que precisam de muito dinheiro. Eu isso percebo. E há outras coisas que não precisam de muito dinheiro. E algumas nem precisam de dinheiro, é uma questão de organização. Portanto, desculpe, eu acho que isto indigna.
António José Seguro, muito obrigado por ter vindo aqui até aos nossos estúdios.
Foi um prazer, mas eu gostava, se me desse... Ah, não sei se vai terminar.
Sim,
a entrevista.
Não, só quero
30 segundos para o elogiar a si, aos seus colegas e ao trabalho da Rádio Alfa. Certamente não serei a primeira pessoa a fazer, nem a última, mas o que os senhores fazem pela afirmação da língua portuguesa e por manter unida esta comunidade que nos está a ouvir é qualquer coisa que merece o nosso apreço e é um motivo de orgulho.
É a nossa razão de ser. A Rádio Alfa foi criada por isso em 1987 e começando a emitir no dia 5 de outubro. É simbólico.
Não,
simbólico. Então teremos um presidente que vai intervir, mas respeitando a Constituição e não ser um...
Serei um presidente muito exigente.
E não será um presidente comentador.
Não,
bom,
não.
Ficou hoje isto. Muito obrigado, António José Seguro.
Foi um prazer.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure de passage à niveau, ce dimanche 15 février, et on va continuer à parler des élections municipales. Cette fois-ci, on a avec nous, dans les studios, monsieur Nicolas Bougeard, conseiller municipal d'opposition à Argenteuil et tête de la liste Argenteuil Gauche Rassemblée. Monsieur Bougeard, bonjour et merci d'être là chez nous.
Merci surtout à vous pour cette invitation.
Alors, il faut dire que Bon, je vais faire un petit portrait. Express. Hein.
Je vous écoute.
Voilà. Alors, marié et père de deux enfants, Monsieur Bogère, né en 1966 à Brest, donc un Breton, est membre du PS depuis 1996 et s'est installé à Argentine en 2005. Professeur de mathématiques, il a beaucoup voyagé. Vous avez été en poste à Tanger, au Maroc, à Montréal, au Québec, Santiago du Chili, et depuis 2018, vous êtes proviseur du lycée Van Gogh à Hermont. Bonjour, monsieur le proviseur.
Bonjour. Alors, en effet, j'ai une casquette de proviseur dans la vie hors politique, mais
tout est politique dans la vie.
Oui, tout est bonjour. Politique, tout à fait. Mais surtout si on parle de politique éducative, vous pensez bien que ce sont des sujets importants. Mais là, c'est vrai, vous m'avez invité en tant que candidat aux élections municipales et je vous en remercie encore.
Alors, vous avez dit la gauche. Non, c'est le titre de Argentine, la gauche rassemblée avec Nicolas Bougeard. Rassemblée, mais la France insoumise fait bande à part, d'ailleurs, c'est pas propre à Argentine, c'est un peu partout, c'est en France, régénérant, je crois.
La France insoumise a décidé de faire une liste, et nous savons que c'est une ligne dans plusieurs villes de France, je crois qu'ils ont plus de 500 listes dans ce cadre-là. Voilà, c'est tout. Nous sommes la liste du Rassemblement de la Gauche, Parti Socialiste, Parti Communiste, les écologistes, l'Après, Génération S, Place Publique.
Oui, il y a une liste et il y a 12 organisations, sauf erreur de ma part. Alors, M. Bouger, j'ai devant moi vos 16 propositions, nos 16 premières propositions pour Argentine. Alors, est-ce que je dois sous-entendre que finalement, vos propositions, c'est des critiques, à la gestion de M. Georges Motron, l'actuel maire.
Alors, quand vous vous présentez une élection, c'est bien pour gagner cette élection. Donc, si vous êtes dans cette dynamique, c'est que vous estimez que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner dans votre ville. Sinon, vous allez faire autre chose, des activités très, très certainement fort intéressantes, mais nous faisons de la politique. Et donc, si nous sommes en campagne, c'est bien parce que nous ne sommes pas satisfaits de l'état de la ville ou du fonctionnement de la ville. Alors, en creux, évidemment, des propositions, ça voudrait dire que nous ne sommes pas d'accord, et c'est le cas, avec plusieurs pans de la politique municipale. Il faut quand même rappeler que Motron, ça va faire plus de 20 ans qu'il est à la direction de cette ville. Il y a eu une parenthèse 2008-2014 où la gauche avait repris la direction, mais Motron, c'est 20 ans de politique de droite dans cette ville. Donc, bien évidemment, nous ne sommes pas satisfaits de comment cela fonctionne.
Bon, ça, on verra le résultat, d'ailleurs, dans un mois, M. Bouger, il aura lieu le premier tour, déjà. Bon, ça, c'est... Et votre liste, vous allez la déposer quand, préfecteur?
Alors, nous allons officiellement déposer notre liste pour la semaine prochaine. Nous sommes sur les derniers réglages. Vous pensez
c'est le timing de...
Le 26 février, c'est la date limite. Et on va la poser, bien sûr, avant la date limite.
Alors, gérer une ville. Quand on regarde la situation politique, sociale, de la France, aujourd'hui, surtout depuis la dissolution de la République par M. le Président de la République. Trois premiers ministres... Et la même chose, la même chanson, je passe l'expression, ça concerne les finances publiques. Mmh. Bon, il y a un déficit. Ça date pas d'aujourd'hui, bon, enfin. Mais tous ces trois premiers ministres, M. Barnier, M. Bayrou, même M. Legornu, le déficit, c'est à cause des collectivités territoriales. Donc, des ponctions, on réduit, et cette année, là, on parlait de 3 milliards, je ne sais pas combien, je suis perdu là-dedans.
On est allé jusqu'à 7 milliards, d'ailleurs, dans les prévisions.
Dans ces conditions-là, comment faire un budget?
Alors,
c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est un casse-tête chinois, ça.
Alors, déjà, cette assertion que le déficit de la France serait dû à la mauvaise gestion des collectivités territoriales, très clairement, je m'inscris en faux. C'est même une assertion, c'est scandaleux, ce qui a été dit. Il faut rappeler que, contrairement au budget national, les collectivités territoriales ont l'obligation de produire un budget à l'équilibre.
C'est les seuls, d'ailleurs.
La France, elle, nous produit des budgets en déficit réguliers. Je vous rappelle que c'est un vrai enjeu. Donc, les collectivités territoriales, elles, respectent le cadre, un budget à l'équilibre. Et rappelez-vous, hein, ce sont quand même ces collectivités territoriales, la mairie au premier lieu, bien sûr, les municipalités, mais aussi les conseils départementaux, les conseils régionaux, qui font vivre le tissu
et qui investissent le plus.
Le premier investisseur en France, ce sont les collectivités territoriales. Donc, ces collectivités font vivre le pays. Donc, c'est pour ça que ça avait été vraiment cette accusation avait été scandaleuse. Ensuite, les arbitrages viennent d'être rendus. Donc le gouvernement demandera des efforts supplémentaires aux collectivités, aux regroupements de communes, aux EPCI, mais touchera moins directement la commune et les conseils départementaux, par exemple.
Est-ce que ça revient pas au même en quelque sorte, parce que ça rentre pas par la porte, ça va rentrer par la fenêtre.
Le budget direct des municipalités, et en particulier avec la DSU, avec un certain nombre de dotations spécifiques, on sera moins touché que prévu. Voilà.
Alors, on parle des sous. Les sous, on dit que c'est le nerf de la guerre. Mais commençons, parce que ce que c'est plus important pour moi comme citoyen, c'est notre vie quotidienne. Donc, vous êtes proviseur. Alors, bonne question. Quelle est la situation? Et en résumé, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il y a des problèmes. Les crèches, les maternelles, bon, l'enseignement élémentaire, on laisse de côté pour le moment. Mais alors, est-ce qu'à Argenteuil, avant même de concevoir un enfant, on inscrit déjà son enfant à la crèche?
J'aime beaucoup votre façon d'aborder les sujets. Alors, sur la petite enfance et en particulier nos enfants dans les maternelles, c'est un vrai souci de comment est-ce qu'on peut garantir une éducation efficiente, efficace, dans un cadre apaisé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc il nous faut des écoles, évidemment, où le cadre est sécurisé, mais le cadre est repensé. Il faut naturaliser, les cours d'école. Ça, c'est quelque chose de très important.
Ça commence par l'avoir du personnel qualifié.
Alors, je vais juste finir mon propos. Le personnel qualifié, attention, si vous parlez du personnel enseignant, cela ne relève pas la municipalité.
Mais je parle au niveau des crèches et des maternelles, oui, s'il vous plaît.
Alors, ça dépend si vous avez des crèches municipales ou des crèches en délégation de service public. Vous connaissez la différence, d'accord? C'est pas du tout les mêmes obligations réglementaires, si, mais les personnels n'appartiennent pas ou ne sont pas régis par les mêmes personnes. Donc, en ce qui concerne les crèches municipales, évidemment, il faut, de par la loi, il faut du personnel qualifié, il faut du personnel en nombre.
Il faut le trouver.
Il faut le
payer.
Et ça, ce n'est pas un problème lié à votre ville ou à Argenteuil. Vous savez bien que ce sont des problèmes nationaux de recrutement de personnel en nombre qualifié. Vous avez cela, malheureusement, à tous les niveaux. Vous avez des problèmes de recrutement des infirmières, des aides-soignantes, des professeurs, même à un niveau encore différent, des AESH dans les écoles. Et nous devons assurer une dynamique, mais dans un milieu qui est contraint, donc on ne pourra pas non plus faire croire aux gens que d'un coup de baguette magique, on va tout résoudre. Par contre, nous nous engageons à combattre, à nous battre pour tenter de résoudre ces problèmes-là. C'est ça, c'est la dynamique. Quelle est la dynamique que nous mettons derrière tout cela?
Oui, parce que bon, il y a un certain nombre de choses. Les pouvoirs des maires sont limités. Et là, je veux parler des services publics, la poste, la CAF, la sécurité sociale, la recette des impôts, par exemple. Quelle est la situation aujourd'hui à Argenteuil? Bon, et les maires, là, c'est pas... ce qu'ils peuvent faire, c'est protester, d'envoyer une lettre au Premier ministre, à un tel, à un tel.
Mais encore faut-il le faire. Encore faut-il le faire. Et il faut mener les combats. Quand vous avez le bureau de poste d'un quartier de Val-d'Argent-Nord, 18 000 habitants, le bureau de poste ferme, les services publics désertent certains quartiers. Donc là, oui, il faut se battre, il faut employer ces mots-là. Et c'est pour ça que vous dites le maire a peu de pouvoir. Mais si vous créez la dynamique, vous savez, notre histoire est jalonnée de combats pour les avancées sociales. S'il n'y avait pas eu ces combats, vous pensez que vous qu'on aurait pu avoir les 35 heures, les congés payés, la sécurité sociale?
Il y a des gens qui ont payé de leur vie pour
voilà. Et il y a un moment, il faut mener des luttes. Eh ben, actuellement, nous devons mener un certain nombre de luttes. Oui, nous devons, avec la Poste, trouver des solutions pour que les habitants des quartiers puissent avoir un bureau de poste, qu'il y ait des distributeurs, par exemple, de billets de banque. Ça, c'est une problématique aussi. Que les horaires soient adaptés aussi aux vies des personnes pour les services publics. Et ben, tout cela, ce sont des combats. C'est bien pour ça que dans notre, je vois que vous avez notre document, il y a des propositions qui relèvent directement de ce que nous pouvons faire à la tête d'une municipalité, et il y a des combats. Des combats pour le transport, des combats pour la qualité de certains services publics, le combat pour la santé, le combat pour le logement, vous voyez, le combat pour la sécurité. Ça, c'est aussi un combat à mener.
Et par rapport au transport, justement, bon, à Argentan, il y a plusieurs gares. RER, bon, il y a même un train qui vient de la gare Saint-Lazare, bon, et pas seulement. Au niveau des transports, parce que vous êtes, vous touchez un axe, la fameuse A86, qui est pas très loin. Donc, c'est un carrefour de plein de choses. Pour les habitants, c'est facile, surtout que la plupart travaillent ailleurs. C'est ça, le vrai
Alors, plus. Monsieur, bon, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur cette interview préparée, mais vous me donnez une opportunité pour pousser un cri. Nous, à Argenteuil, en termes de transport, il y a un moment, c'est très simple. On veut tout parce qu'on n'a rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes la 5e ville d'Île-de-France. 5e ville d'Île-de-France.
Oui, vous avez 110 000 habitants.
Voilà, 110 000 habitants. Là, Alors, c'est Paris, Saint-Denis, Boulogne, Montreuil et nous. D'accord ? Mais vous classez les 80 villes d'Île-de-France par ordre de taille. OK ? Elles ont toutes et où un métro, un tram, un RER. Nous, je vous avais cité le RER. On n'a pas de RER à Argenteuil. Hein. On a une ligne de train. Point. La ligne J.
Bah, y a le,
une y ligne y a, de train.
Il y a Val d'Argentré.
Non, c'est deux gares, une seule ligne de train, c'est la même ligne, c'est la ligne J. Donc nous sommes un pôle, d'accord, où il n'y a pas de tram, pas de métro, pas de RER. Le tram arrive de chaque côté de la ville, le métro est en face de la Seine, etc. Et puis vous avez une zone blanche là.
Oui, le tram il passe à Besançon, par exemple.
Le tram, ça, la tête de pont est à Besançon. Mais il n'arrive pas jusqu'à Argenteuil. Et ben ça, ce sont des combats à mener. Il y a des combats à mener pour avoir le T11, pour avoir le T2, pour avoir la ligne 19. Je me bats pour avoir la ligne 19. Donc, pour le prolongement de la ligne 13. Et ces combats-là, vous savez, on perd les combats qu'on ne mène pas. Quand vous voulez avoir sur des sujets aussi importants des résultats, c'est des projets à 20, 25, 30 ans. Donc il faut un T0 à un moment. Il faut le lancer, ce combat-là. Et moi, je considère qu'il n'a pas été lancé.
Donc le Grand Paris, Argenteuil, ne connaît pas.
Nous sommes dans le Grand Paris. Nous sommes...
Non, mais je veux dire, bah, tout le grand projet, Grand Paris...
Ah, oui, mais pour le Paris Express. Alors, déjà, le Val d'Oise lui-même a été écarté de tous ces grands projets structurants. Nous n'avons qu'une seule gare. Et c'est un véritable scandale. Nous ne sommes pas respectés en tant que département. Nous ne sommes pas respectés comme la première ville du Val d'Oise. Nous ne sommes pas respectés comme la 5e ville d'Île-de-France. Et c'est bien pour cela qu'avec l'équipe, c'est tous ces combats-là qu'on va mener.
Donc, d'après vous, c'est manque de lutter, tout simplement. Ou peut-être, bon, c'est du point de vue politique que le maire actuel n'a pas agi. Alors, les transports. Tout le monde se rappelle de la Val d'Argentin, le Karcher et compagnie, bon, je fais allusion, etc.
Bon, si je peux me permettre, le Karcher, c'était pas Argenteuil, le Karcher, c'est la Courneuve, nous, c'est la Racaille.
La Racaille. Alors, loi SRU et Argenteuil, bon, aucun problème, hein, Argenteuil, il ne paye pas de
pénalité là-dessus.
Alors, justement, par rapport au logement social, le gouvernement a fait des coupes énormes, et d'ailleurs, une des premières mesures de monsieur et madame Macron, c'était de réduire l'APL, par exemple. Bon, c'était 50 euros, bon, mais c'est pour les gens. Quelle est la situation aujourd'hui à Argenteuil, rapidement, et qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il faut renouveler l'habitat, il faut que les gens aient des conditions dignes d'habitat, et surtout, il faut avoir un toit. Et c'est pas évident. Et aujourd'hui, un couple avec deux salaires a du mal à trouver un logement. Oui. Ce sont des pauvres.
Oui. Des chiffres simples, hein. 8000 demandeurs de logement sur la ville d'Argenteuil.
En attente.
En attente. 8000 demandeurs de logement. C'est énorme. Nous manquons de logements, nous manquons cruellement de logements. Le maire actuel avait, par exemple, entamé une politique de destruction des logements sociaux. Il avait, sur son premier mandat, détruit 500 logements sociaux. Depuis, il n'y a pas eu un seul permis de délivrer par cette municipalité de droite. C'est entre 2008 et 2014, on a réussi à recompenser la destruction. Mais il n'y a pas eu d'autres programmes là-dessus d'envergure. Donc oui, il faut un habitat digne pour toutes et tous. Ça passera par des constructions, mais des constructions de tout type, du logement, la propriété, accessible à la propriété, des prêts. On est en fait sur du logement, certes, de tout type. Voilà. Permettant à tout le monde de pouvoir se loger dignement. Mais en même temps, il faut le plan de rénovation énergétique des logements, en général, aider des propriétaires privés, mais aider, évidemment, accompagner les bailleurs, parce que ça, c'est un véritable enjeu.
L'État, il a coupé les
subventions. Et ça, cet enjeu-là, il faut pas le négliger, parce que là, on obère autrement sur les 20, 30 années à venir.
Alors, quelque chose de très important, bon, dans vos propositions, Argenteuil ville solidaire, Argenteuil ville durable, Argenteuil ville émancipatrice, j'ai réussi à le dire, pardon. Quelque chose qui est très important au niveau des villes, c'est pour le tissu social, pour le lien social, c'est les associations. Justement, et là, qui dit association, dit citoyenneté, toutes ces choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Quelles sont vos propositions? Comment est-ce que vous voyez que ça devrait être au niveau local, cette démocratie dite locale?
Ben, plus de 300 associations à Argenteuil. Et en particulier, par exemple, on a trois grosses associations portugaises qui, je profite d'ailleurs d'être à votre micro pour les saluer, car en ce moment, ils sont mobilisés sur des aides à apporter au Portugal. Et croyez bien que nous sommes de tout cœur avec toutes les victimes actuellement et ces associations se mobilisent et il y a un vrai élan de solidarité. Et ça, c'est une des forces à Argenteuil. On a plein d'associations qui sont là au plus près et bien souvent, si elles n'étaient pas là, la situation serait catastrophique. Donc ces associations-là nous permettent de tenir en fait une solidarité, un esprit aussi, un esprit qui à Argenteuil est particulier. On en est fiers de cet esprit. Et donc ces associations indispensables au bon fonctionnement d'une ville pour apaiser la ville. Et ben vous pensez bien que nous serons au plus près de tous ces bénévoles qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas leur énergie et que nous devons remercier régulièrement. Voilà.
Mais, monsieur Bouger, on arrive à la fin, ne vous inquiétez pas.
Non,
parce que, bon, y a la pendule qui tourne. Je vais poser une question. Combien de langues on parle à Argenteuil?
J'en sais rien. Je n'en sais rien parce que, déjà, on parle le français. Oui. Et si on doit bien avoir une langue commune, comme dans toutes les villes de France, c'est notre belle langue française. Après, il y a certainement énormément de langues qui sont parlées. On parlait des associations portugaises,
oui,
bien sûr. Mais
il y a
plein d'associations dans différentes langues. Et je serais incapable de vous dire si c'est 20, 30, 50, 60, 70. C'est peut-être 80. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est une richesse, en tout cas, absolue.
Oui, parce que quand on dit les Français de souche... Bon, pardon, hein, vous êtes... bon, les Bretons, à un moment donné, pendant la Première Guerre mondiale, à ce moment-là, à cette époque-là, les Bretons qui parlaient pas français allaient en prison.
Bon, il y a eu... Ils étaient envoyés au front, surtout.
Au front, ah oui. Ouais. Et au front, les officiers savaient pas trop
vous
comment parler.
Vous savez que la Bretagne est la région qui a le plus de morts pour la Première Guerre mondiale, alors que nous sommes les plus loin du front. Ben, nous étions plus loin du front à l'époque. Et pour des raisons bien simples, c'est parce qu'ils ne parlaient pas il ne parlait pas le français, d'ailleurs.
Oui, non, mais il y avait... La France, c'est un puzzle. C'est un puzzle de peuple. Et je pense que...
Quand on doit en être fier.
Voilà. Et quand on parle d'Argenteuil, justement, c'est l'exemple de ce que c'est la France aujourd'hui, tout court. Bon, que ça plaise ou que ça déplaise.
Alors, justement, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une richesse. Si c'est 80-100 langues différentes, ben tant mieux. Moi, je dis tant mieux, voilà. Parce que c'est avec cette diversité, avec cela, qu'on pourra continuer à construire ensemble ben, une ville apaisée. Il faut construire ensemble une ville apaisée, on aura besoin de tout le monde, voilà.
Alors, 15, dans un mois, M. Bouchard, c'est le premier tour, d'accord ? Le 22, le deuxième. Alors, j'ai l'habitude de dire, voter, c'est un droit, mais c'est avant tout un devoir. Alors, pour les gens, les citoyens, comme moi, comme vous, voter dans une ville, finalement, c'est voter pour notre quotidien. Ça sert à rien d'après dire « Ouais, le maire, il a fait ceci, le maire, il fait cela », sachant que le maire n'a pas tous les pouvoirs. Bon. Mais enfin, donc, voter, surtout voter, voter, voter.
Nous sommes bien d'accord, c'est un véritable enjeu, car malheureusement, dans beaucoup de nos villes, surtout dites populaires, les taux de participation sont faibles. Et après, alors que nous sommes, nous, à la tête d'une municipalité, ben, au premier front, nous sommes là pour améliorer la vie des gens au quotidien. Donc, ne pas participer à ce moment de démocratie de proximité, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on ne participe pas à sa propre vie.
Monsieur Bougeard, pardon, monsieur Nicolas Bougeard, je vous remercie. J'appelle le conseiller municipal d'opposition Argenteuil, département 95, c'était la liste Argenteuil. Gauche rassemblée d'autres listes que j'ai eu connaissance, et à l'EFI de l'actuel maire, monsieur Georges Motron, et de Franck Desbeaux, ancien adjoint, justement, de monsieur Motron. C'est les infos que j'ai pour aujourd'hui. Votre liste, elle sera déposée, pardon, quand,
préfecture? Là, c'est, dans les jours qui viennent, là, c'est,
La date limite, c'est le 26.
Ah oui, mais ne vous inquiétez pas, ça sera posé avant le 26.
Merci et
merci beaucoup.
Bon retour dans le 95. Je vais vous suivre, mais un peu plus tard, dans une heure et demie, j'irai aussi dans le 95.
Ah, d'accord.
C'est une autre affaire. Merci, M. Bouchard.
Mais je vous en remercie beaucoup.
Merci bien.
Au revoir.
Et maintenant, on va parler de quelque chose de complètement différent. Bon, ça a à voir avec la presse française et aussi tous les exilés qui sont venus en France, même, on va y aller jusqu'au, dans les années 1800 et poussière, c'est un sujet du livre Paris, capitale polyphonique, histoire de la presse, réfugiés, exilés, immigrés, édition Atland, et on va avoir deux historiens, qui vont nous parler de ce livre, Nicolas Pizzos et Christine Klimeko.
Ce que nous avons voulu faire et proposer avec ces livres, c'était inviter nos lecteurs à découvrir ou redécouvrir la richesse de la presse parisienne. Et on était tout un continent englouti, tombé dans l'oubli de cette presse parisienne, celle rédigée en partie ou en entier, dans une ou plusieurs langues, dont le portugais, comme vous avez dit, langue étrangère ou non officielle. C'est-à-dire des langues en dehors du français, sans pour autant inclure dans cet ouvrage des langues régionales. Et nous avons aussi souhaité faire connaître, reconnaître toute une série d'acteurs qui ont gravité autour de cette presse, des éditeurs, des imprimeurs, rédacteurs, dessinateurs ou traducteurs, et puis aussi visiter et revisiter des lieux du paysage parisien qui sont liés à ces titres, à l'histoire de ces titres, de ces tentatives éditoriales, le bureau de rédaction, les imprimeries où ces titres ont vu les jours, les cabinets de lecture où ont été lus, les kiosques où ces journaux ont revu été diffusé. Mais aussi, nous avons voulu, inviter nos lecteurs à revisiter des institutions culturelles, des lieux de commerce, des lieux de loisirs qui étaient fréquentés par les publics cibles de ces journaux et de ces revues. Et à cette occasion, je pense notamment à une revue lusophone, aux Dois Mundos, étudiée par Bruna Oliveira Santiago, qui est une revue publiée à Paris à la fin du XIXe siècle et qui fait par exemple la promotion du Grand Hôtel du Brésil et du Portugal, qui était donc de manière prioritaire un lieu destiné à ses lecteurs.
Monsieur Pitsos, une question de base, les sources, parce qu'il a fallu faire des recherches, est-ce que la BNF a été utile pour vous?
Très bonne question. En effet, oui, le catalogue de la BNF était un point de départ incontournable, la consultation de ces catalogues, et puisque nous y retrouvons la plupart des titres publiés des journaux et des revues, de cette presse parisienne allophone, donc publiée dans de langues autres que les français. Mais il y a aussi les fonds, les archives d'autres bibliothèques, telles que la Bibliothèque historique de la ville de Paris, ou encore la Bibliothèque universitaire des langues des civilisations, qui nous ont aidés à compléter les catalogues des titres à étudier et qui parfois nous ont fait prendre connaissance des titres dont on ignorait encore l'existence.
Pourrait-on dire que ce livre, finalement, comble un vide dans l'histoire de la presse en France en général?
Oui, je pense, j'ose dire que, et j'espère aussi que oui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, comme je vous le disais, il y a plusieurs études, plusieurs titres qui sont présentés, qui n'étaient pas encore connus ou peu connus, voire tombés dans l'oubli pour plusieurs d'entre eux. Et puis, c'est un livre qui s'inscrit dans les cadres des travaux d'un réseau, le réseau Transfopresse, qui a été fondé il y a plus de 10 ans maintenant par Diana Cooper-Richer et ses collègues. Et à l'époque, l'objectif de ces réseaux, c'était de vraiment essayer de combler des lacunes dans l'histoire de la presse en général, pas seulement l'histoire de la presse en France, mais dans d'autres pays également. Et en ce qui concerne l'histoire de la presse française, parisienne en l'occurrence, des chercheurs associés à ces réseaux, des historiennes et des historiens qui travaillent sur la presse se sont réunis pour faire en sorte que ce travail collectif que nous avons mené puisse donner lieu à cette publication qui nous invite vraiment à redécouvrir la richesse de cette presse et de ce phénomène éditorial.
Quand on parle de presse, automatiquement, bon, il y a un rapport avec l'actualité, mais pourrait-on dire que l'étude de la presse en langue étrangère a une liaison directe avec l'histoire nationale française et même l'histoire internationale?
Oui, bien sûr. Alors là, j'aimerais à la fois rappeler que et insister sur le fait que c'est un ouvrage, celui de Paris Capitale Polyphonique, qui se veut à la fois un travail d'historien, travail d'études historiques et historiennes, mais aussi un art citoyen. C'est un engagement citoyen très fort que nous avons voulu mettre en avant. On sait que actuellement, en France, mais aussi dans d'autres pays européens, et encore ailleurs à travers le monde, il y a des phénomènes, des réflexes, des pratiques qui témoignent d'une montée de la xénophobie. Et nous avons voulu montrer, démontrer avec ces livres et nos recherches et études à quel point les acteurs de la presse que nous avons étudiés, les exilés, les réfugiés, immigrés en général, ont été une force motrice du développement de la société parisienne et aussi ils ont considérablement contribué à la richesse et à l'enrichissement de la vie intellectuelle, culturelle de cette ville. Et puis, cet ouvrage nous amène aussi, comme vous l'avez suggéré dans votre question, à nous interroger sur l'impact des événements, des séquences historiques de la vie des relations internationales a eu sur la naissance et l'émergence de cette presse. Et en effet, on se retrouve face à plusieurs séquences historiques douloureuses et malheureuses, telles que les exils politiques, les déplacements forcés des populations, qui ont amené une partie des acteurs de cette presse à fuir le pays d'origine et chercher refuge à Paris ou en France, ou ailleurs en France. Et donc, nous pouvons dire que cet ouvrage invite l'histoire internationale mondiale, l'histoire des relations internationales, au devenir de la ville de Paris et plus exactement le devenir de sa presse C'était le cas, par exemple, dans les cadres des journaux étudiés par Christina Climaco, qui nous montre que non, toute une presse lusophone a été publiée et diffusée à Paris pendant l'entre-deux-guerres par des exilés politiques, par des Portugais qui ont fui les conditions contraignantes installées dans les pays suite à l'arrivée au pouvoir d'une dictature.
Monsieur Nicolas Pitsos, je rappelle, on parle du livre Paris Capitale Polyphonique, Histoire de la presse, réfugiés, exilés, immigrés, publié par Atlant Éditions. Monsieur Nicolas Pitsos, je vous remercie, il n'y a plus qu'à lire, hein, c'est le cas de le dire.
Un très grand merci encore de nous avoir invités et de nous avoir permis de parler de cet ouvrage. Merci beaucoup, M. Sylvain.
Palavras de Nicolas Pitsos, historiador, que falou, entre outras coisas, das contribuições sobre a imprensa em língua portuguesa publicada em França em duas épocas diferentes. Bruna Oliveira Santiago, doutora de História, autora de La Presse Illustrée Lusophone à Paris du 19e siècle, 1877-1893, e da historiadora e investigadora Cristina Clímaco, Presse Portuguesa, com o artigo Presse Portuguesa d'Exil, publié à Paris pendant l'entre-deux-guerres, page 173. Cristina Clímaco, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Astor.
Muito obrigado por estar em direto connosco. A sua contribuição começa precisamente por falar da imprensa em língua portuguesa aqui em França entre duas guerras. É um contexto que é depois do golpe de Estado do dia 28 de maio, de maneira que isso é importante. E outro contexto é que a imprensa em língua estrangeira em França, naquela altura, gozava de uma certa liberdade aqui, devido ao facto de ser publicada em língua estrangeira, é?
Para os exilados era bastante importante poderem ter um órgão da expressão em língua, na língua do exílio. No entanto, a legislação francesa autoriza a publicação da imprensa em língua estrangeira a partir do momento em que o diretor da publicação seja francês. Portanto, essa imprensa em língua estrangeira é autorizada, é legal.
E, bom, sobretudo o período que é analisado é depois do golpe de Estado do dia 28 de maio de 1996, talvez resumidamente relembrar aqui o que se passou nesse dia.
E a queda da República.
A Primeira República.
Da Primeira República não tinha o objetivo inicial, não era o derrubo da República, mas uma regeneração do sistema republicano. Entretanto, o que acontece é que esse movimento, que era um movimento bastante alargado da esquerda, da republicana e mesmo do movimento operário, até aos monárquicos, e o que acontece é que era um movimento que era feito contra o partido que monopolizava o poder desde há algum tempo, que era o Partido Republicano Português, com António Maria da Silva, era a figura dominante do partido. E o movimento alargado era contra a manutenção do Partido Republicano no poder e, portanto, a regeneração do sistema republicano, a abertura a outras forças políticas, a melhoria, o progresso. O que acontece é que os monárquicos e a direita republicana não democrática, não liberal, vão tomar conta do movimento e instalar-se no poder durante alguns anos, como sabemos.
Foi.
Mas imediatamente, os republicanos de esquerda, de centro e de esquerda, também com o movimento operário, começam imediatamente a conspirar contra o regime que sai do 28 de maio.
A sua contribuição está dividida em dois períodos. Começamos pelo primeiro, 1927-1930. Podemos dizer que as publicações eram mais propaganda política, e quero referir duas publicações: A Revolta, que era da Liga Defesa da República, e Liberdade, que era o órgão independente de educação cívica e republicana.
São dois jornais efêmeros. Uma característica da imprensa é realmente o número reduzido de números que é publicado. A Liberdade, por exemplo, só saíram dois números, mas são órgãos, não são órgãos destinados a uma comunidade exilada, destinada à propaganda no interior do país. São publicados no exterior, e eventualmente também para a propaganda no exterior, não só em França, mas nos meios da deportação e outros meios de exílio, mas é sobretudo uma propaganda para o interior, para Portugal. Era introduzida em Portugal e distribuída em Portugal.
Já leremos então com Santos, a medida ao que parece a Liberdade, que foi publicada entre abril de 1938 até junho de 1939, e depois foi, nessa data, em junho de 39, foi proibida pelo Ministério do Interior, aliás, como publicação UNIR. Porque, já leremos, mas no período 37-39, será que houve uma reorientação relativamente à imprensa que era publicada aqui em França em língua portuguesa? Houve, porque, bom, posso dizer que nessa altura era mais uma imprensa antifascista?
Esse período 37-39 é uma imprensa antifascista. Já não tem nada a ver com as primeiras publicações. Uhum. Aliás, entre 1930 e 1937, não há qualquer publicação do exílio em França. Os exilados não publicam em França. Há uma publicação em Espanha em 1933-34. E depois há um vazio até 1937. A publicação 37, UNIR, e 38, A Liberdade. Portanto, são jornais que têm uma outra dimensão, que não tinham A Revolta ou A Liberdade de 1930. São jornais que se enquadram no âmbito da Frente Popular Portuguesa. Mesmo A Liberdade, que tinha, era um jornal anarquista, era um jornal do movimento anarquista, mas que estava muito ligado aos republicanos e a um movimento de frente popular, mas uma frente popular que não é propriamente a frente popular modelo, ou seja, a Frente Popular Portuguesa é um movimento que é controlado e dominado pelos republicanos e não pelos comunistas, como num modelo tradicional de frentes populares. Só para acrescentar, são jornais que têm uma dimensão, até pelo número de anos que são publicados, 37, 39 no caso de UNIR, 37, 38, 39 no caso de A Liberdade, e aqui estão menos virados para o interior e mais para o exterior. Portanto, é realmente uma imprensa que quer ser traço de união entre os vários locais de exílio e eventualmente para o interior, mas numa fase posterior, ou seja, num segundo objetivo. E, portanto, é realmente uma imprensa que é feita para quem está no exterior, quem está no exílio e na imigração. São jornais que já não se destinam apenas não são órgãos apenas de propaganda, são órgãos também de contacto, de difusão e de solidariedade entre os vários espaços, mas também com a imigração. O UNIR tem uma página que é dedicada à imigração.
Ora, confere que, entretanto, bom, houve a Guerra Civil de Espanha, o golpe militar do Sr. Franco, não é? E por aí fora. Mas é verdade que, no que diz respeito à publicação Liberdade, em princípio eram publicados 5 mil exemplares, metade deles foram distribuídos em Portugal. Como é que eles faziam?
Eram introduzidos clandestinamente por redes que estavam, digamos que foram montadas, no caso da Liberdade, eram ligadas aos anarquistas e, portanto, passava pelo Porto de Marselha e ia para o Norte de África e depois entrava por Portugal. Mas, digamos que mesmo no caso da Liberdade, a Liberdade tem uma característica muito especial, é que uma parte das páginas são em espanhol, porque a Liberdade é financiada pela FAI, pela Federação Anarquista Ibérica e pela Generalidade da Catalunha. Portanto, é um financiamento, é um jornal que se engloba no âmbito da Guerra Civil de Espanha e é financiado exatamente para estabelecer uma ligação com França, com os grupos em França e em Portugal. Portanto, é também, digamos, um meio dos republicanos espanhóis, ou pelo menos do governo, não do governo, porque a FAI, não podemos dizer que a FAI seja o governo, mas para os republicanos espanhóis e no seu, digamos, na sua designação alargada para fazerem também propaganda em Portugal. Portanto, era um meio de chegar também a Portugal e de, digamos, defender a causa do, da República Espanhola em Portugal.
Sabendo que a ditadura salazarista já lá estava, uma última pergunta, Cristina Clímaco, é que há um certo número de nomes que sobressaltam, ou ressaltam mais concretamente, de, no que diz respeito aos republicanos exilados. Alguns deles participaram na Guerra Civil de Espanha contra o Franco. Estou a pensar em dois, concretamente, Jaime Cortesão, por exemplo, ou Emílio Guerreiro. Até que ponto é que finalmente é que eles estavam na origem destes jornais, falámos da Revolta, a Liberdade, ou ainda de Unir, eles acompanharam isso tudo, quer dizer, resistência relativamente à ditadura em Portugal, a resistência à ditadura do Franco e depois a luta em França, não sei se, bom, já ultrapassamos 39 aí, eu sei, e que tiveram uma ação igualmente aqui na luta contra o nazismo a nível da resistência.
Jaime Cortesão é um homem incontornável quando falamos do Unir, menos no caso dos jornais anteriores, estava também na sua ação, foi menor. No caso do Unir, é um dos elementos chave do Unir. Só para dizer também que o Unir começou a ser publicado graças a um empréstimo que o governo republicano espanhol concedeu aos republicanos portugueses e, digamos, para fomentar o jornal, para financiar o jornal, mas também para financiar um golpe em Portugal, portanto um novo movimento do exílio contra o governo, contra a ditadura salazarista. E portanto uma parte desse empréstimo foi utilizado para financiar e publicar o jornal Unir.
Cristina Clímaco, muito obrigado por ser universitário investigador na cidade de Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, igualmente na cidade nova de Lisboa. Lembro o livro Paris, capital polifonique, Histoire de la presse, réfugiés, exilés, émigrés, publicado pelas edições Atlanta. Cristina Clímaco, muito obrigado e obrigado pelo seu trabalho que continua a desbravar terreno, eu quase dizer que é bastante importante sabermos, conhecermos o passado, compreendermos o presente e prepararmos o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Silva.
E agora vamos falar da mobilização que está a ver por esse mundo fora, inclusive aqui em França, para precisamente ajudar as populações portuguesas que sofreram com as duas tempestades e, aliás, as inundações continuam em Portugal. Há um certo número de associações, a começar por Todos Juntos, que lançaram já uma campanha, há muitos produtos que foram enviados já para Portugal, e precisamente um apelo do diretor da Rádio Alfa, Fernando Lopes, na medida em que está prevista uma emissão especial na próxima terça-feira, dia 17 de fevereiro, das 19 às 20, que vai juntar um certo número de associações. Ouçamos.
Uma emissão que vai decorrer terça-feira entre as 19 e as 20, onde vamos chamar as pessoas que fazem parte não só do coletivo Todo Junto, mas as associações que estão também envolvidas e que ajudam também para isto ser um êxito, a tentar dar uma solução às pessoas que precisam lá em Portugal. Estou aqui a falar de 20 associações diferentes. Os representantes estarão aqui durante essa emissão e conseguimos convencer a imprensa, a vir ter connosco. Alguns jornais, algumas televisões portuguesas estarão presentes. Espero também que a Agência Lusa, que convidamos, também esteja aqui presente também, porque nós temos de ser unidos. Todos juntos, é unidos. Mas não é só a associação A, B ou C, terá que ser também os mídias também e muito mais. Por isso, é um ponto de encontro e também queria também referir aqui que desse dia vamos explicar um pouco às pessoas o que é que foi feito, o que é que falta para fazer e quanto tempo, porque o tempo, francamente, isto vai durar durante meses e talvez anos. Por isso não podemos ficar aqui baixar os braços, porque vai ser longo, mas temos que ajudar. E está, deste momento, os pedidos estão a mudar. Ouvi, por exemplo, pessoas da região do centro dizendo que não era preciso roupa, porque já não era preciso. Deste momento, estão-nos a chamar em urgência para ter roupa de casa para as camas, cobertores, lençóis. Já não há. É um exemplo. Por isso, o melhor que a gente podia ter feito é o seguinte: as pessoas fazerem uma doação, se pudessem, financeira, para este coletivo poder comprar em Portugal, ganharmos tempo diretamente, lençóis, cobertores. E nós estamos ligados com a Junta das Freguesias, com câmaras, são pessoas que estão muito mais perto ainda das pessoas que estão lá a viver. Quem melhor do que um presidente de uma junta sabe o que está a acontecer com as pessoas que estão envolvidas e que perderam algumas delas tudo. É isso que vamos falar da terça-feira. Vamos dar esta explicação. Esta emissão é importante. Escutem a emissão, participem.
Palavras de Fernando Lopes, o diretor da Rádio Mobilização, e as associações, muitas associações, seria impossível que eu detalhasse agora, podia passar uma hora, isto, no bom sentido do termo, da medida em que há muitas, muitas iniciativas, mas para já uma iniciativa que vem do sul da França, e já agora um grande abraço a todos os ouvintes que escutam a Rádio Alfa através do sistema DAB+, a Associação Juventude Lusitana de Toulon, em conjunto com o Comitê de Germina no Bucé Terras do Boro, está a promover uma campanha solidária em estreita colaboração com o Grupo Folclórico de Antibes, ACPAM Le Canet, Santa Maria da Laúcha e Mares de Portugal. A recolha realiza-se hoje, precisamente, a partir desta mesma hora, 14 horas, sucessivamente, e até às 18 horas, na Salle Azur, na localidade de Bucé, ou Bucete. De maneira que, bom, aqui fica, e como diz o outro, todas as ajudas são bem-vindas. Pois bem, havia ameaças de neve, como cantam a salada de frutas, se quando vá se fazia isso, caso que...
Se a moleza se
verdade, é verdade. Prometeu, mas não deu. Quase de dizer, começou aqui um bocadito, né? Mas lá vai por aí a lenha. Uma informação prática para os nossos ouvintes: as estruturas diplomáticas portuguesas no estrangeiro vão estar encerradas ou a laborar com serviços limitados na próxima terça-feira, dia 17 de fevereiro. É, pois é, terça-feira de Carnaval. Tome as suas precauções, informe-se antes de ir ao consulado. E obrigado ao Manuel Alexandre por ter acompanhado durante estas 2 horas e dou-vos encontro domingo que vem. Bem-ajam.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parte sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parte sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parte sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.